Bon midi, chers amis. Bienvenue à cette édition du Boom Chick Hour du 7 novembre. Très heureux de vous retrouver, Martin Godette, avec vous pour ce rendez-vous dominical qui met également, qui lance un peu ce que certains ou certaines d'entre vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Les Gros Dimanches. Cette semaine, on va se promener pas mal parce que j'ai envie de vous faire... Tu sais, quand je monte les shows... Il y a toujours une thématique, puis des fois, je passe un bord, des fois, je passe sur l'autre. Et là, ben, la thématique, c'est surtout de se remémorer et ou de faire découvrir des artistes. Alors, on va se promener dans plusieurs époques. On va évidemment aussi peut-être vous faire découvrir des artistes. On va se promener un peu plus cette semaine dans, j'ai envie de dire, rock and roll, rockabilly, chicken picking, plus country, bien sûr, avec des artistes que moi, ça fait longtemps que j'apprécie, puis que je me disais que ça pourrait peut-être être intéressant de vous les faire découvrir ou redécouvrir, parce que je commence avec un artiste, justement, que vous connaissez, mais que vous connaissez pas. En tout cas, certains d'entre vous, peut-être plus mélomanes, pourront parler de ces artistes-là et les connaissent, mais ça va souvent, ben, les deux premiers, à tout le moins, ça va être des artistes qui ont accompagné des artistes que vous connaissez, assurément. Il n'y a pas d'ordre d'importance, j'y suis allé là par thématique, et le premier, ben, dont je vais vous parler, c'est Luther Perkins. C'est qui ce gars-là? Luther Perkins était un membre d'un trio, en fait, qui s'appelait le Tennessee Three, et qui a été évidemment le band, si on veut, qui a suivi ce cher Man in Black, Johnny Cash. Alors, Luther Monroe, qu'est-ce qu'on... Luther Monroe, c'est son middle name, Luther Monroe Perkins. Donc, Luther Perkins, c'était, j'ai envie de dire, et c'est vraiment pas péjoratif, c'est un guitariste minimaliste. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un de flamboyant, c'est pas quelqu'un qui avait peut-être les aptitudes guitaristiques, mettons, d'un Scotty Moore, dont on va parler tantôt, mais ce qui distingue le plus, c'est son style minimaliste, simple, mais particulièrement le fait qu'à une note, on savait que c'était Luther Perkins, ou en tout cas à un arrangement, on n'a qu'à penser, bon, évidemment, à des solos comme celui de Folsom Prison Blues, comme I Walk the Line, tout ça. Très minimaliste, mais très, si vous me passez le terme, très pesant néanmoins et très distinguable. Alors, on va commencer parce que Luther Perkins, il a fait des affaires sans Johnny Cash. Fait qu'on va commencer. On ouvre le Boom Chick Hour édition du 7 novembre avec une pièce de Luther Perkins qui s'intitule « Cattle Call ». Luther, Perkins et Carol Cole. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est très intéressant. Le Tennessee Three, en fait, était composé de Marshall Grant également et de Red Kernodle. C'était des gars, Luther Perkins, en fait, c'est un gars qui travaillait dans un garage. C'est un vendeur de véhicules. Et il s'amusait avec Kernodle et Grant. Quand Johnny Cash est revenu, évidemment, d'Allemagne en 54, il a été présenté à ces gars-là. Et là, ils ont décidé de commencer à jouer de la musique ensemble. Un autre tidbit d'information super intéressant, c'est que la première guitare électrique, va sans dire que Luther Perkins a acheté, c'était une Fender Esquire électrique et les boutons de tone et de volume. Donc, tonalité et volume, là, c'est pour ceux qui connaissent un peu la guitare et Fender, ils ne marchaient pas. Alors, c'est ça qui a fait en sorte que, au début, ils ont appelé ça le boom chica boom. Là, vous l'avez entendu un petit peu là, dès les premières notes. Tung, tang, tung, tang, tung, tang, tung. Bon, c'est un peu ça. Fait que c'est évidemment les trois premières cordes de la guitare qui sont accordées en standard, donc mi, la et ré, que lui, il s'amusait à étouffer. En anglais, on appelle ça muter. Donc, il mettait la lame de sa main, si on veut, sa main gauche. Puis là, il l'accotait sur les cordes. Et c'est ce qui donne le boom chick. Donc, tu sais, on ne s'appelle pas Boomchick Hour pour rien. On veut rendre hommage, bien sûr, aux personnes qui y ont contribué. Et Luther Perkins en est définitivement, un exemple. Il est décédé en 68 à l'âge, au très jeune âge de 40 ans. Il était originaire, évidemment, dans son cas. Il est né à Como, au Mississippi. Il est décédé au Tennessee, à Andersonville, pour être plus précis. Et si on parle également de culture, ou en tout cas de style musical plus rockabilly, bien définitivement qu'on en retrouve aussi là-dedans, parce que le boomchick amplifié, si on veut, fait définitivement partie du style boomchick. On continue notre présentation. Un autre icône, un autre monstre de la guitare et évidemment, il a accompagné pendant des années Elvis Presley. Écoutez, Scotty Moore, en fait, si on parle justement de fingerstyle, de chicken picking, de boom chick, et peu importe, ben ça a été un des premiers proéminents, si on veut. Il est né le 27 décembre 1931. Il est décédé à l'âge vénérable de 84 ans, le 28 juin 2016, à Nashville, au Tennessee. Il est originaire du Tennessee. Je vous ferai pas écouter l'histoire de la vie de Scotty Moore. Ça serait un show, en fait, en soi. Par contre, bien évidemment que ça nous amène à parler d'une autre personne, mais dont on va parler dans une deuxième édition de Légendes oubliées dans le cadre du Boomchick Hour. Et ça va être Carl Perkins, qui était un musicien, compositeur. C'est à lui qu'on doit Blue Suede Shoes, entre autres. Mais je vais en parler dans une autre édition, parce qu'à lui seul, il y a pas mal de matériel. Il y a pas mal de stock. Comment ne pas parler de Scotty Moore en vous le présentant comme le monsieur toujours souriant qui jouait de la guitare électrique dans le Elvis 68 Comeback Special, qui est un de mes shows préférés de l'histoire de l'humanité. Elvis revenait d'Hollywood, son saut en cuir, DJ Fontana qui joue du drum sur le case de guitare, le plancher fait en espèce de carré, d'un pied carré en lumière. C'était un show absolument incroyable et très intime, très Sun Records. Donc voilà. Fait que Scotty Moore, ben écoutez, à l'âge vénérable, parce que j'aurais pu vous mettre « That's all right, mama », Chris Train, Ozzy doit être en train de penser à moi. j'aurais pu mettre aussi « Mystery Train », pardon. Sauf que je les ai déjà fait jouer. Fait que ce que j'ai pensé faire, c'est de rendre hommage à Scotty Moore, alors que lui-même participait à un show hommage à Elvis, en compagnie, dans ce cas-ci, d'Eric Clapton. Ça s'intitulait « Tribute to the King », alors qu'il a joué... Il interprétait en compagnie, bien sûr, de Clapton. Ça, c'est en 2004. La pièce Mystery Train, mais façon, si on veut, Clapton. Et rappelons, pour la petite histoire, que lorsque ça a eu lieu, il avait 73 ans. Donc, c'est 13 ans avant son décès. Alors, Mystery Train, qui est dans mon top 5 de pièces favorites, mais je me suis dit, bon, je vais le présenter d'une autre façon parce que je l'ai fait jouer trop souvent. Alors, voilà. Scotty Moore et Eric Clapton, Mystery Train, interprété en 2004 dans le cadre de la session A Tribute to the King. On vous revient tout de suite après. Vous êtes dans le Boomchick Hour, 7 novembre. Toujours en pleine forme, même à 73 ans, Scotty Moore qui interprétait en compagnie, bien sûr, de Eric Clapton. Mystery Train, pardon. Je continue, et là, on continue notre tournée, si on veut, avec les grands musiciens, souvent des légendes oubliées, méconnues, ou peu importe, ou tout simplement des choix que j'ai faits de gens que j'aimerais vous présenter, mais qui sont peut-être pas nécessairement, ne font pas partie de l'ère moderne de ce qu'on pourrait appeler, sauf un, d'ailleurs. On continue, puis là, ben écoutez, je me voyais mal parler justement de légendes oubliées, ou en tout cas de vous expliquer pourquoi ce sont des légendes. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais j'ai envie de dire l'espèce de grandfather of chicken picking, of boom chick, c'est-à-dire je parle ici de Merle Travis. Merle Travis qui est né en 1917 et qui est décédé en 1983, qui est toujours demeuré actif, en fait, même jusqu'à la fin de sa carrière. Il y a eu, évidemment des hits commerciaux aussi, dont, entre autres, une pièce s'appelle 16 Tons. Il y a eu Nine Pound Hammer aussi. Et il est l'instigateur de ce qu'on pourrait... Ben, à l'époque, on appelait ça le Travis Picking. Mais c'est devenu plus tard une espèce de progression de ça, le boom chick également. Mais en fait, Merle Travis aussi avait une façon particulière de jouer. Vous allez l'entendre, évidemment, vous en faire entendre. Mais il n'utilisait pas nécessairement tous ses doigts, comme c'est le cas de beaucoup de musiciens d'aujourd'hui qu'on peut voir là, faire du boom chick, jouer évidemment la ligne de basse et la mélodie en même temps. Lui, il faisait ça. Il avait sa façon bien à lui de le faire. Et il le faisait principalement avec deux doigts, avec le pas c'est l'index, mais on le voit parfois si on regarde des vidéos sur YouTube utiliser également son majeur, donc voilà. Encore une fois, un autre artiste légendaire, gigantesque, absolument extraordinaire, qui a fait, évidemment, qui faisait la tournée, si on veut, là, c'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de Facebook puis de YouTube, mais qui faisait la tournée des médias, si on veut, pas des médias, mais des talk shows, puis tous les plateaux de télévision se l'arrachaient parce que, justement, il y avait des hits commerciaux, mais également parce que c'est très populaire, très à consonance, évidemment, très country également. Sauf que, à écouter, vous allez entendre beaucoup d'influence de beaucoup de monde. Et c'est un très bon exemple de ce qu'est justement le boom chick, ou à l'époque, qui était appelé le Travis Picking. Donc, on va vous faire un petit duo, un petit doublé avec Merle Travis. La première pièce, par exemple, j'ai envie de vous en parler parce que vous la connaissez. C'est la pièce Midnight Special qui a été rendue populaire, entre autres, avec Creedence Clearwater Revival, CCR. Par contre, cette pièce-là n'est pas deux. Hein? C'est une pièce, en fait, qui origine... On remonte jusqu'à 1923 pour parler de Midnight Special. C'est une composition, en fait, qui viendrait de prisonniers du sud des États-Unis. Et qui a été reprise à maintes reprises. Je vous fais une petite lecture d'artistes qui ont repris ça, là, puis je veux pas... juste pour vous donner puis peut-être un peu plus moderne, là. Bobby Darin a repris ça, Van Morrison, Little Richard, Buckwheat Zydeco, Otis Rush, Spencer Davis Group, Eric Clapton, il y en a plusieurs qui ont repris ce morceau-là. L'autre chose aussi, ça a été rendu encore plus populaire parce que Harry Dean Stanton, qui est un acteur relativement connu aux États-Unis, la joue dans Cool Hand Luke, le fameux film de qui se passe dans une prison avec, évidemment, Paul Newman. Ça a été repris à maintes reprises. Puis évidemment, CCR en a également fait un énorme hit. Et c'est ensuite suivi d'une pièce instrumentale qui provient d'un des nombreux albums de Merle Travis qui s'intitule Blue Smoke. Alors, on vous passe ça, puis je vous reviens tout de suite après.
If you ever go to Houston, boy, you better walk right. You better not gamble. You better not fight. T. Bentley will arrest you. He will sure take you down. Judge Nelson will sentence you. Then you're jailhouse bound. Let the midnight special shine its light on me. Let the midnight special shine its ever-loving light on me. Let the midnight special shine its light on me. Let the midnight special shine its ever-loving light on me.
Well, it's every Monday morning when the ding-dong rings. You go to the table and find the same old thing. Right there on the table is a spoon and a pan. Say anything against it, you got trouble with the man. Let the midnight special shine its light on me. Let the midnight special shine its ever-loving light on me. Let the midnight special shine its light on me. Let the midnight special shine its ever-loving light on me. Yonder comes my woman, tell me how do you know. I can tell her by her apron and the clothes she wore. Straw hat on her head, boys, piece of paper in her hand, saying, look here, Mr. Jailer, I want my lifetime man. So let the midnight special shine its light on me. Let the midnight special shine its ever-loving light on me. Let the midnight special shine its light on me. Let the midnight special shine its ever-loving light on me.
Prochain artiste, d'ailleurs, merci à Merle Travis, j'adore la dernière pièce. J'entends vraiment beaucoup, c'est assez spécial parce que, tu sais, vous le savez, je suis un grand fan de Tommy Emmanuel. Puis j'entends Tommy Emmanuel, tu sais, je veux dire, on sent, on perçoit très bien l'influence dans les montées, dans le fast-picking, dans tout ça. Puis tu sais, écoute... ce gars-là jouait ces morceaux-là et ce style-là, tu sais, dans les années 50, dans les années 60. Alors, Merle Travis, le grand-papa du Boom Chick, alors qu'à l'époque, on appelait ça le Travis Picking. Prochain artiste, bien là, on parle d'une étoile filante, hein, vous le savez, dans les années 50, il y a eu j'ai envie d'appeler des étoiles filantes, c'est-à-dire des gens qui nous ont quittés trop rapidement. On n'a qu'à penser à Richie Valens, on n'a qu'à penser à Buddy Holly, qui aurait très bien pu faire d'ailleurs cette édition quand on parle de légendes oubliées, quoi qu'on les oublie évidemment pas. Mais là, je vous parle, j'utilise souvent le terme le père ou le grand-papa de, ben là, je vous parle du grand-papa du rockabilly, et je parle évidemment d'Eddie Cochran. Eddie Cochran qui a été une vedette, une étoile filante dans le firmament du rock and roll et particulièrement du rockabilly. Il est né en 1938, le 3 octobre, et il est décédé à l'âge de 21 ans seulement, le 17 avril 1960. C'était un multi-instrumentiste. Il jouait de la guitare, du piano, de la basse, de la batterie. Et évidemment, son look était un peu James Dean-esque, c'est-à-dire que c'était un rebelle, mais bien habillé. Et il faisait fureur à cause de ça. On pense à des hits, évidemment, on va vous en faire jouer. 20 Flight Rock, Summertime Blues, Come On Everybody, Something Else. Et il y a eu d'autres trucs également qui ont été, parce qu'il avait été signé par une compagnie de disques anglaise qui avait tout de suite vu son talent, évidemment. D'ailleurs, je vous disais qu'il est né en Californie, mais il est déménagé plus tard en Californie, donc en 52. Et donc, il avait 13 ans à l'époque. Et puis, c'est ça. Il a participé à certains films également et tout ça. Fait que c'était évidemment la vedette montante. Par contre, c'est le 17 avril 1960 qu'en revenant, en fait, il était en tournée en Angleterre. Il est décédé en Angleterre. Sans tout faire l'histoire, là, en fait, c'est un accident de voiture. Il y avait plusieurs personnes dans le véhicule et la cause, en fait, de l'accident aurait été une vitesse excessive. Pour vous parler un peu d'Eddie Cochran avant de vous le faire entendre, évidemment, mais il a été une grande influence sur beaucoup d'artistes contemporains. Entre autres, il y a eu évidemment les Stray Cats, c'est la première chose qui me vient en tête. D'ailleurs, il va y avoir une petite référence, mais des artistes qui ont mentionné avoir été influencés par son travail et où avoir fait des reprises de ses chansons. Ben écoutez, là, la liste est tellement longue. Les Stones, Springsteen, les Stray Cats, bien sûr, et Brian Setzer, les Beatles, Led Zepp, les White Stripes, les Sex Pistols, je continue-tu, oui, George Thorogood, Paul McCartney, Alan Jackson, qui avait repris évidemment Summertime Blues, Jimi Hendrix, qui jouait Summertime Blues dans ses shows, John Hallyday, et même U2. Celui-là, j'ai pas de référence à vous donner. Mais la vraie histoire capotée relative à Eddie Cochran, je vous disais qu'il avait été signé par une maison de disques anglaise, c'est que la raison pour laquelle Paul McCartney est devenu un Beatles, c'est parce qu'il connaissait les paroles et les accords de la pièce 20 Flight Rock. Et ça va être la première pièce qu'on va vous faire entendre de Eddie Cochran. Ça va être suivi d'une autre pièce de lui, mais d'un guitariste absolument phénoménal et qui est probablement, écoute, s'il y avait eu à choisir, peut-être moins, avec les tatous en moins, mais s'il y avait eu à choisir un musicien pour personnifier Eddie Cochran, je suis certain, de toute façon, ça s'est déjà fait, parce qu'il l'a fait dans La Bamba, mais ça aurait été Brian Setzer, le frontman, bien sûr, des Stray Cats, le band historiquement, pour moi, en tout cas, de rockabilly. Il y en a eu plein d'autres, mais qui a eu un succès à la fois culte et commercial. Fait qu'on passe ça avec 20 Flight Rock et ça va être suivi par la suite de Summertime Blues qui avait été en disque en 1959, mais la version de Brian Setzer telle que vous l'avez entendu dans La Bamba. Je vous reviens tout de suite après. Saturday night, a hole alone where I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. The elevators are broken down, so I walk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up on the 12th, I'm suddenly dragged. 15th floor, I'm ready to sack. Get to the top, I'm too tired to run. Well, she called me up on the telephone. Said, come on over, honey, I'm all alone.
I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked 1, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 more. I'm on the cliff, I'm starting to drag. 15 to 4, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to run. Sent to Chicago for repairs till it's fixed. I'm using the stairs. Hope to hurry up before it's rain. I love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. I find my corpse draped over a rail, but I climb 1, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 more. I'm on the cliff, I'm starting to drag. 15 to 4, I'm ready to sag. Get to the top, I'm too tired to rock.
No dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, the mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday.
A call, cause you didn't work a leg.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime.
Son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime.
L'interprétation de Brian Setzer dans le film La Bamba de Summertime Blues, qui est assurément, je dirais, le hit le plus connu, si on veut, de ce cher Eddie Cochran. Et là, bon, on va s'en aller dans un tout autre genre, chers amis. Et là, je parle, bien sûr, du chicken picking. Chicken picking, c'est quoi? C'est très country, évidemment. C'est attribué, évidemment, à ce style musical-là, pardon. Et c'est très distinctif. Vous allez assurément savoir exactement de quoi je parle lorsque je vais vous faire entendre les deux prochains artistes. Le premier, c'est un jeune homme du nom de Johnny Highland, qui est un... en fait, qui est un musicien qui est atteint de cécité, pour commencer, et qui est relativement jeune, mais qui a déjà une carrière, si on veut, excessivement remplie, un brin d'histoire, en fait. Il n'est pas vieux, il est né en 75, et il est né dans le Maine. Donc, vous allez me dire, ouais, Martin, très country, mais bon, laissez-moi aller. il est déménagé. En fait, il vient d'une famille de musiciens qui jouaient beaucoup de country bluegrass, qui s'appelait les trois... The Three Jays. Donc, il était accompagné de sa sœur Jody et de son frère Jerry. Il gagnait tous les concours dans lesquels il participait et tout ça. C'était, Johnny Hyland est définitivement un virtuose. À ce moment-là, ce qui est arrivé, évidemment, parce qu'il était en très jeune âge, lui-même était âgé de 7 ans. À l'âge de 15 ans, évidemment, sa voix a commencé à changer. Et il avait développé un intérêt, évidemment, pour la guitare électrique. Alors, il a commencé à jouer du country, du rock, du blues et tout ça. Et en 96, il est déménagé à Nashville et il a travaillé comme musicien de session, si on veut, pour un paquet d'artistes bien connus dans le monde du country, c'est-à-dire Toby Keith, Ricky Skaggs. Il y en a plusieurs autres également. Il a joué avec... Hank Williams III, il a joué avec un paquet de monde, il en disquait avec eux autres. Puis, il s'est fait découvrir par nul autre qu'un gars qui s'appelle Steve Vai, que vous connaissez sûrement, ne serait-ce que de nom, et sur son label qui s'appelle Favored Nations. Il en disquait un premier album et par la suite, ben là, il a commencé à se produire de façon indépendante. Un album qui s'appelle Loud and Proud, dans lequel on peut vraiment... C'est vraiment le mélange parfait, je trouve, entre le country et le rock plus lourd, si on veut. Mais là, ce que j'ai fait, parce qu'on est dans les hommages, c'est que je trouve que sa version de That's Alright Mama d'Elvis démontre très, très bien ce qu'est le style chicken picking. Et on va écouter ça. Puis par la suite, je vais vous parler d'un autre musicien qu'on surnommait de son vivant, parce qu'il n'est malheureusement plus des nôtres, qu'on surnommait le meilleur guitariste pas connu du monde. Alors, Johnny Hyland, That's Alright Mama, dans la pure tradition du chicken picking. Johnny Highland, considéré dans à peu près toutes les listes de best-of qui existent ou pas sur la Terre, est considéré comme un des 5 meilleurs chicken pickers de l'histoire de la musique. Mais je trouve que cet artiste-là est excessivement méconnu. Il est très actif aussi dans la formation, en fait, dans le matériel... didactique, si on veut, pour jouer de la guitare avec, bon, les très connus Mel B, Hot Licks et tout ça. Donc, vraiment un musicien à découvrir si, évidemment, c'est un style que vous affectionnez. D'ailleurs, il y a une pièce sur l'album Proud and Loud dans laquelle qui s'intitule Chicken Picking Heroes qu'il interprète avec ses héros du Chicken Picking, donc Vince Gill, Ricky Skaggs, Steve Warner, entre autres. Alors, voilà, vous pouvez aller faire un tour peut-être puis découvrir cet artiste-là. Et là, je vous parle d'un autre artiste qui occupe une place très spéciale, moi, dans mon cœur de guitariste. Et je parle ici de Danny Gatton, un musicien absolument extraordinaire et pas assez connu, qui est malheureusement décédé. Il est né le 4 septembre 1945 et il est décédé le 4 octobre 1994. Il s'est malheureusement enlevé la vie. Je pense, il n'y a pas de note, quoi que ce soit. Il souffrait de dépression et écoutez, c'est un musicien qui a jamais eu son, ce qu'on appellera en anglais son big break, si on veut. Il a fait plein de choses. Il est connu dans le sens que, tu sais, moi là, je vous en parle, puis, mais c'est un musicien absolument extraordinaire. Il y a bien du monde qui disait de lui, qui lui donnait le surnom de The Humbler. Parce que tous les grands musiciens qui ont jamé avec lui n'étaient pas capables de le suivre. Je peux vous dire que, en tout cas, j'espère que la pièce que je vais vous présenter va vous en faire la démonstration, parce que c'est absolument incroyable ce que Danny Gatton est capable de faire avec une guitare. Comment je suis tombé sur Danny Gatton? Petite histoire personnelle. Évidemment que je suis un fan de ce genre de musique-là. Je suis un fan de Scotty Moore, je suis un fan d'Elvis, Johnny Cash, tout ça. Et il y a une façon très particulière de jouer certaines pièces, particulièrement quand on joue dans le fingerstyle, et Mystery Train en est une. Tu sais, il y a une façon de percussionner cette pièce-là, faire le boom chick en même temps que la mélodie et tout ça. Et je tombe sur YouTube, je cherchais des vidéos, ça fait des années de ça, là. Et je cherche des vidéos d'instructions sur la bonne façon de jouer Mystery Train pour sonner comme Scotty Moore. Je tombe sur une vieille vidéo qui est sur YouTube, mais tu sais, c'est clair que ça a été un peu genre enregistré directement sur la télévision avec c'est moi, une caméra vidéo, quelque chose. C'est très VHS, super granulaire. Le son est pas bon. Ça a l'air weird, le studio dans lequel c'est enregistré, en tout cas. Puis je tombe sur Danny Gatton, Hot Licks. J'en ai parlé un petit peu tantôt, là, qui sont des vidéos là, que les plusieurs guitaristes qui sont avec nous autres se rappellent peut-être à l'époque. Là, c'était les vidéos qu'on achetait pour justement piquer les tunes ou piquer le style ou piquer des techniques aux grands guitaristes. Et je tombe là-dessus et là, je suis. J'ai pas joué. Tu sais, j'ai pas rien essayé, j'ai juste regardé la vidéo au complet parce que c'est une vidéo qui montrait un peu les trucs de Danny Gatton. Puis là, bon, on parle de fingerstyle, on parle de chicken picking, on parle de boom chick, on parle de faire du delay fake, tu sais, de donner l'impression que tu as du delay, mais t'en as pas, des double down qu'on appelle sur des notes et tout ça. Et c'est absolument, mais complètement phénoménal. Danny Gatton également fait partie des mentors qu'un autre guitariste bien connu a eu, qui s'appelle Joe Bonamassa. Il en parle d'ailleurs dans certaines vidéos. C'est un gars qui s'auto-endisquait, c'est-à-dire qu'il faisait, il se produisait lui-même. Il a enregistré quelques albums avec des maisons de disques. Il y en a un, entre autres, qui s'appelle 88 Elmira Street, qui était en 91, qui était sous l'étiquette Elektra. Mais, tu sais, c'était toujours un peu mitigé. Son succès a toujours été un peu mitigé. Il a fait également un show qui est bien connu là, sur la scène country qui s'appelle Austin City Limits. C'était pas un chanteur, il y avait toujours quelqu'un qui l'accompagnait. Il accompagnait toujours un chanteur. Donc, le cas classique là, du musicien qui a toujours un band avec un chanteur dedans. Absolument phénoménal, Danny Gatton. J'aurais pu faire un show au complet sur Danny Gatton parce qu'il a tellement fait de choses extraordinaires. Dans le Rolling Stone, on parle de lui, on dit que c'est un des 100 meilleurs guitaristes de tous les temps. Dans ses admirateurs, je vous en nomme quelques-uns, Buckethead, Joe Bonamassa, Lenny Bro, dont on va reparler éventuellement parce qu'il revient toujours sur les listes des meilleurs guitaristes, James Burton, Chris Cheney, Johnny Hyland, on en a parlé tantôt, Vince Gill aussi, Albert Lee, qui est un autre vieux de la vieille, Roy Buchanan, en tout cas, il y en a un paquet, Richie Sambora, Ricky Skaggs, Slash, Steve Vai, il parle de Danny Gatton, mais Danny Gatton n'a jamais eu un succès proéminent commercial. Fait que il a même été en nomination pour une pièce qui s'appelle Elmira Street Boogie en 91. Donc voilà, c'est de l'album dont je vous parlais tantôt, 88 Elmira Street, qui est probablement l'album qui lui a donné le plus de reconnaissance, mais pas de succès commercial, ou en tout cas même parmi les aficionados de la guitare. Puis étant donné qu'il est décédé quand même il y a un certain temps, ben, ça fait partie de ceux, tu sais, il y avait 49 ans, c'est en 94, donc il fait partie des gens que je trouve qu'on a un petit peu oubliés ou qui sont méconnus, bien sûr. Ce gars-là pouvait jouer du blues, du bluegrass, du country, du jazz. Il y a un album qui s'appelle Redneck Jazz, qui est absolument phénoménal, qui a enregistré en 1978. Écoutez, c'est un guitariste, là, si vous êtes des tripeux de musiciens virtuose et incroyable. Danny Gatton avec deux N, donc D-A-N-N-Y Gatton, G-A-T-T-O-N. Découvrez ce gars-là, il est absolument extraordinaire et je vous en fais entendre évidemment la pièce Nitpicking qui va rester dans le thème justement du Chicken Picking, mais c'est pas la dernière fois que vous allez entendre du Danny Gatton dans le Boom Chick Award. Je vous reviens tout de suite après avec d'autres légendes. We'll be right back. L'incroyable Danny Gatton. La pièce s'intitule Nitpickin' et c'est de l'album Unfinished Business. Il y a eu plusieurs albums quand même de Danny Gatton, plusieurs posthumes également, des enregistrements de show live, des choses comme ça. Alors, si vous voulez découvrir Danny Gatton, il y a du stock en masse. Un autre oublié, ça dépend toujours à quel crowd on s'adresse, évidemment, quand on parle d'un artiste oublié, mais en tout cas, moi, je l'oublie pas parce que dans une vie passée, j'étais propriétaire et opérateur d'une radio country qui s'appelait Radio Déo à l'époque. Évidemment, il y a eu une petite, une petite affaire qui s'est appelée la pandémie qui a fait que ça a rendu un peu plus difficile de l'opérer. Mais c'est là que j'ai redécouvert, parce que je l'avais déjà vu, je m'intéresse toujours aux virtuoses. Mais grâce à mon ami Toto Lavigne, d'ailleurs, qui animait, qui était l'animateur vedette de cette station-là, pour ceux qui l'ont connu, et qui m'a fait redécouvrir, mais à travers Yeehaw, la fameuse, évidemment, émission country mythique qui était sur les réseaux américains, et pour laquelle l'artiste dont je vous parle était un des co-hôtes. Et je parle bien sûr de Roy Clark. Roy Clark, c'est un artiste dans la plus peu tradition des entertainers des années 60. Il est passé, entre autres, bon, il co-animait bien sûr Yeehaw, mais il a passé aussi dans The Odd Couple avec Tony Curtis, Tony Randall et Jack Klugman, qui était bien sûr, qui est devenu plus tard, bien sûr, le bon Dr. Quincy. Mais voilà, et il avait fait d'ailleurs, il avait présenté une pièce bien connue dans le répertoire hispanique, c'est-à-dire La Malaguena. Je pense qu'il avait joué ça justement là, dans un des épisodes où il jouait un artiste là, qui attendait d'avoir une audition ou quelque chose de ce genre-là. Alors voilà. Et bien sûr, dans IA, ben, il était très présent, il a fait un paquet d'affaires. Mais il a également eu des hits commerciaux, dont un que je vais vous faire entendre, parce que c'est un gars fondamentalement très humoristique. Il était très, très, très drôle, mais c'était un très grand musicien. Et écoute, il jouait du banjo, il jouait de la guitare, il jouait du violon, il jouait de la mandoline. Il est né le 15 avril 1933 et il est décédé à 85 ans. Le 15 novembre 2018. D'ailleurs, on l'avait vu très avancé en âge, bien sûr, mais dans un espèce de show retour, ou encore un hommage à Yeehaw, dans lequel on le voyait encore une fois avec son partner de l'époque jouer du banjo, dont le fameux Dueling Banjos du film Deliverance, mais qu'il faisait de façon très, très humoristique. Il y a eu deux hits commerciaux. Il y en a un qui s'intitulait Yesterday When I Was Young, qui était, dans la plus peu tradition là, des shows de télé américains et tout ça. Là. Mais il y en a eu un second qui s'intitule Thank God and Greyhound, évidemment en référence c'est un peu drôle parce que il est content que sa conjointe, sa concubine quitte sur un autobus Greyhound. Alors, c'est un peu sur fond de musique, très classique de la musique populaire américaine des années 60 et avec des paroles un peu humoristique. Alors, voilà. Comme je vous disais, décédé le 15 novembre, âgé de 85 ans. Il a continué d'être actif, là. Écoute, il a été actif jusqu'à... Ben, en fait, les gens disent jusqu'à 2018, donc jusqu'à son décès, mais évidemment, il était plus limité un petit peu en talent et en capacité. Pour vous donner le genre d'humour, enlever les jokes de mon oncle, même quand je le regarde en photo, il me fait un peu penser à Benny Hill. Tu sais, il y avait un peu cette bonne bouille-là, sympathique, tu sais, que tout le monde aimait avoir dans son téléviseur. Et il a été une figure très connue du monde du country américain, du monde de la télévision américaine. Mais au-delà de tout ça, c'est la pièce que je m'apprête à vous faire jouer en fera peut-être pas l'étalage, mais je vous réserve quelque chose un peu plus tard dans le show. Alors on écoute avec Roy Clark, on écoute Thank God and Greyhound.
I've made a small fortune, and you've squandered it all. You shame me till I feel about 1 inch tall. But I thought I loved you, and I hoped you would change. So I gritted
my teeth and didn't complain. Now you come to me with a simple goodbye. You tell me you're leaving, but you don't tell me why. Now we're here at the station, and you're getting on, and all I can think of is thank God in Greyhound you're gone. Thank God in Greyhound you're gone. I didn't know how much longer I could go on, watching you take the respect out of me, watching you make a total wreck out of me. That big diesel motor is playing my song. Thank God in Greyhound you're gone. Thank God in Greyhound you're gone. That load on my mind got lighter when you got on. That shiny old bus is a beautiful sight, but the black smoke rolling up around the taillights, it may sound kind of cruel, but I've been silent too long. Thank God in Greyhound you're gone. Thank God in Greyhound you're gone.
Roy Clark, Thank God in Greyhound. Mais lui, il ajoute « You're gone ». Alors voilà, je vous le disais que c'est un peu humoristique et totalement dans le ton de cet artiste-là. Allez faire un tour sur les interwebs et vous allez trouver beaucoup de choses de Roy Clark, beaucoup de talent. Et c'est clair que ce monsieur-là était adulé. Un genre de pendant humoristique de Glen Campbell, dont on va assurément parler. Ça fait une couple de fois, je le dis, mais un autre icône de la télévision américaine, mais également de la musique américaine de ces années-là qui ont été très prolifiques justement en artistes qui ont laissé leur marque. Parlant d'artistes qui ont laissé leur marque, ben on pouvait pas évidemment parler de légende et ou de légende oubliée que de ne pas parler de Chet Atkins. Chet Atkins, qui est un musicien, probablement l'un des musiciens les plus prolifiques de l'histoire de la musique américaine, que ce soit en termes de production d'albums, pas pour lui, d'albums pour lui, de d'accompagnement, de sessions à Nashville et tout ça. Chet Atkins, qui est l'idole d'un Tommy Emmanuel, plus localement, qui est également l'idole de Patrick Normand, qui a eu la chance, ce dernier a eu la chance de rencontrer d'ailleurs Chet Atkins et de piquer un petit peu avec lui. Alors, voilà. Puis là, ben, il y a eu un album. Il a fait, en fait, un album avec Merle Travis, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Évidemment, je vous ai fait jouer des pièces, mais ça vaut la peine de le ramener plutôt Merle Travis, parce que ils ont fait un album ensemble, une collaboration. Je pense que c'était dans... J'essaie de m'en souvenir. Il me semble que c'était dans les années 70. L'album les mettait évidemment avant. Alors, ça s'intitulait le Atkins and Travis Traveling Show. C'est un album qui avait été enregistré en 1974. Il y avait des pièces instrumentales là-dedans. Il y avait toutes sortes de choses. Et c'est super intéressant parce que j'ai envie de dire, tu sais, Merle Travis devait être un peu plus âgé s'il n'était pas sensiblement du même âge que Chet Atkins. Mais c'est intéressant de les entendre tous les deux dans une pièce. Et là, ben écoutez, on peut pas être plus dans le boom chick traditionnel que ça. C'est une pièce qui provient justement de ce disque-là, intitulé Atkins and Travis Traveling Show. Et je vous invite à entendre ça dans la plus pure tradition, si on veut, du style boom chick. Je pense que je pourrais faire jouer cette pièce-là si je voulais définir ce qu'est le style boom chick à la guitare. Alors, la pièce s'intitule Muskrat Ramble. On vous revient tout de suite après pour la conclusion de cette édition du 7 novembre du Boom Chick Hour. Merle Travis, Chet Atkins, Muskrat, pardon, Rumble, de l'album Atkins and Travis Traveling Show. Si vous posez la question, septembre, vous nous écoutez en balado-diffusion, de reculer pour savoir c'est qui est dans quelle oreille, parce que c'est enregistré évidemment sur, séparément sur deux pistes. À gauche, c'est Chet Atkins dans votre oreille gauche. Vous mettez évidemment ça du bon bord, sinon, évidemment, Merle Travis est à droite. Des salutations sont de rigueur, chers amis, parce que j'ai reçu une vidéo de mon amie Nathalie et de son fils Samuel, que je salue chaleureusement, qui est le plus jeune auditeur du Boom Chick Hour et qui s'en est donné à cœur joie, mes amis, parce que ça dansait pas à peu près. Alors évidemment, merci à Nathalie, merci à Samuel. Je salue évidemment tous les membres de cette famille fan de Boom Chick Hour et les remercie chaleureusement d'être à l'écoute. Je vous remercie, vous aussi, évidemment. Je vous rappelle que si vous êtes joint à nous en retard ou peu importe, qu'il vous est possible de réécouter en balado-diffusion tous les épisodes du Boom Chick Hour. On a approché de la quarantaine, d'ailleurs. Même, on doit s'approcher du premier anniversaire. Il me semble que c'était en novembre l'an dernier qu'on avait commencé ça. Évidemment, je fais mon gros possible pour être avec vous autres à toutes les semaines. Il arrive parfois que c'est malheureusement pas possible. Je m'efforce à chaque fois de vous en faire la mention, mais il n'est pas question que le Boom Chick Hour s'en aille nulle part. J'ai beaucoup trop de fun. D'ailleurs, c'est un, comme on dit en anglais, c'est un labor of love. Hein? C'est pas, je gagne pas ma vie avec le Boom Chick Hour. J'ai pas l'intention de le faire non plus. Pour moi, c'est vraiment super plaisant de vous accompagner en musique à chaque semaine. Et si vous voulez donner un coup de main au Boom Chick Hour, tout ce que vous avez à faire, c'est en partager l'existence si vous jugez ça pertinent de le faire. Et peut-être d'en parler au votre entourage que vous savez qui apprécie la bonne musique. Voilà, la semaine prochaine, on va avoir la deuxième partie des légendes oubliées, parce que Dieu sait qu'il y en a, et il y a beaucoup de bonne musique dont on peut parler, qui n'a pas la reconnaissance que moi, bien humblement, je pense qu'elle mérite. Alors voilà, je vais vous laisser là-dessus. C'est effectivement et évidemment les gros dimanches aujourd'hui. Donc vous savez où me joindre ce soir à 20h à cette antenne. Et par la suite, sur la page Facebook Ménage et Dimanche à 22h pour l'After Show. Sinon, je vous remercie encore une fois d'avoir été du rendez-vous et je vous laisse avec une pièce d'anthologie musicale. Ce n'est pas la version originale. Rappelons que la version originale de cette pièce avait été rendue possible grâce au film Délivrance de John Borman en 1972. Et évidemment, je ne ferai pas une critique cinématographique, si ce n'est que de vous parler d'une pièce qu'on y retrouve qui s'intitule... on a toujours appelé ça Dueling Banjos, qui est une composition, en fait, d'un musicien américain qui s'appelle Arthur Guitar Boogie Smith et qui aurait été composé les origines sont un peu nébuleuses, mais ce serait en 1954 et ça s'appelait Fiodin Banjos et il a été décidé que ça serait une scène, bien sûr, du film Délivrance qui, si je ne m'abuse, avait remporté l'Oscar du meilleur film, mais là peut-être que je m'avance un peu trop loin, on va aller vous vérifier ça, mais il me semble que ça avait été un succès au box-office et de la critique également. Ça a remporté 3 Academy Awards, donc 3 Oscars et 5 Golden Globes. Voilà, fait que c'est peut-être pas pour le meilleur film, mais voilà pour la petite histoire. Et pour ceux qui se poseraient la question, dans le film Délivrance, le jeune homme, là, ce qu'on appelle le Mountain Boy, c'est un acteur qui s'appelle Billy Redden. Dans la version du roman, il s'agissait d'un Afro-Américain qui était albino, mais il fallait qu'il trouve évidemment un jeune homme qui était capable de jouer du banjo. Et voilà, donc il a été découvert par une dame qui s'appelle Lynn Stallmaster, qui travaillait sur la production du film Délivrance. Et la fameuse scène, évidemment, mettait également en vedette Ronnie Cox également, qui a été rendu populaire dans le film, entre autres Beverly Hills Cop, et l'ami de Eddie Murphy. Mais là, ce que je vais vous présenter pour conclure cette édition du Boom Chick Hour, c'est Dueling Banjos, mais à la version Roy Clark, Je vous avais dit qu'il y aura encore du Roy Clark. Et c'est interprété dans un show live qui est une espèce de showcase qui mettait un terme au show au début des années 90. Et voici ce que ça donne. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Boom Chick Hour. Merci à tous ceux qui ont été avec nous. Merci également à ceux qui s'abonnent à la version en balado-diffusion sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. Dueling Banjos avec Roy Clark.
It's time for a lesson. Yeah.